La télé buissonnière, un média documentaire et participatif en Ariège.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Transparence, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission de la télé buissonnière, la télé qui s'écoute avec les oreilles. Aujourd'hui, on est avec Lia, la chevrière d'Alzin. Bonjour Lia.
Bonjour.
Et Elsa de l'association Caméra au Point.
Bonjour.
D'abord, du coup, comme toujours, le petit point actu. Prochaine télébrouette, soirée de projection conviviale à Pamiers, salle Agla et Moine, le vendredi 15 décembre à 19h30, entrée libre et gratuite. Une radioscopie, du coup, qui va être projetée et qui a été tournée dans le quartier de Loumette. La Maison des Arts de La Vlanée et l'association Caméra au Point et la télé buissonnière proposent aussi un atelier à La Vlanée. Un atelier pour réaliser des films et créer un projet artistique autour de la place de Sécoustous. Jean-Luc Torresillas propose un atelier en mode spéléo pour découvrir les souterrains de la place de Sécoustous. Rendez-vous le mercredi 6 décembre à 17h pour un temps de rencontre et inscription à la Maison des Arts. Pour tout contact, vous pouvez appeler Abiba Baguigui de la Maison des Arts au 06 30 69 38 33 ou Valérie Guillaudot de Caméra au Point au 06 81 38 10 52. Donc Elsa, tu peux peut-être nous présenter le film Rove and Roll que tu as réalisé.
Rove and Roll, donc, c'est le nom de la ferme de Lia et Jojo qui sont installés en chèvres du Rove, donc qui produisent du fromage et de la viande.
C'est ça.
Dont la particularité,
c'est vraiment le système pastoral, c'est-à-dire qu'on sort nos chèvres accompagnées des bergers, donc soit Jonathan, soit moi. On les sort toute l'année, 8 heures par jour, dans les sous-bois, dans les alentours d'Alzin.
On va écouter cette petite balade en forêt tout de suite.
Surprise les gars.
Cochon, cochon, cochon.
Gollum, viens. Allez, petit gros. Doucement. Odin. Arrête. Bonjour. Du coup, c'est pour dire, je monte à l'estive vite fait, et après je te rejoins. Voilà. Tu veux un truc à manger ou quoi? Bah allez, à toute, Lolo.
Ouais, à toute.
Allez, Beléo.
Les trois boiteuses, et puis là il y a à la crème commence à boiter et à l'op.
Ouais, l'op, j'ai dit hier.
À surveiller. Bon, j'ai regardé, pour l'instant il n'y a rien.
Le lilas, elles ont le droit de le manger là, ici.
Le lilas, ouais. Bah, là, tu vois, je crois que ça dérange personne là. On va au frais. On a eu l'idée d'acheter quelques chèvres pour commencer à monter un petit troupeau. Et voilà, donc on a commencé avec une quinzaine de chèvres au biberon. Donc on n'avait pas de chien, donc on courait après les chèvres. Et puis petit à petit, on a acheté un chien et puis on a commencé à faire grossir le troupeau. Et voilà, donc moi j'avais toujours mon activité de charpente. Il y a travaillé à côté, et puis en plus on avait les chèvres, donc c'était quand même pas mal de boulot. Elles ne nous rapportaient pas grand chose, on faisait que du chevreau, on faisait un peu de viande. Et puis voilà, donc on cherchait à s'installer et on a trouvé ici en Ariège 6 ans après. Donc on avait déjà un troupeau assez conséquent. Et puis du coup l'aventure s'est corsée parce qu'on s'est mis à faire du lait et du fromage. Et voilà, donc pour l'instant c'est notre première année où réellement on commence à en vivre. Et donc on est berger, on est éleveur, on est du coup un peu vétérinaire et puis maintenant fromager. Et puis voilà, on essaye de continuer là-dedans et puis d'avoir que ça marche de plus en plus et puis d'en vivre, parce que maintenant en plus il y a le crédit par-dessus, donc on n'a plus beaucoup de choix. Mais voilà, c'est une passion, on vit toute l'année, tous les jours. C'est assez agréable, quoi. C'est un beau choix de vie. C'est des chemins communaux et donc la plupart des terres ne sont pas exploitées, à part les quelques champs qui sont autour, où on essaye de ne pas passer. Et après, ouais, sur la commune, il y a quand même beaucoup de terres qui sont pas utilisées, ou plus en tout cas. Voilà. Donc pour la plupart, on essaye d'avoir des autorisations, et puis pour les endroits qui ne sont vraiment pas exploités, on passe et puis on nettoie. Voilà. Vu que c'est la chèvre mange quasiment que des ronds sous le lierre, en général ça gêne personne si on passe. Et voilà. D'habitude, j'essaye de faire en sorte qu'elle ne monte pas trop sur les murs, parce qu'elle les nettoie, mais en même temps, elle participe à les effondrer aussi un petit peu. Donc voilà, sinon, on nettoie, quoi. On nettoie les sous-bois et puis tout ce que les gens n'utilisent pas. Voilà. Donc on est à peu près, à l'année, on pâture à peu près sur 200 hectares. Avec nos 100 bêtes. Voilà. On essaye de faire des rotations pour qu'il y ait toujours un peu à manger partout. On va passer toujours au même endroit. Voilà. On les dirige plus que. Enfin, on essaye de les diriger, mais elles vont un peu où elles veulent quand même. Ça, les premiers contacts, c'était les traites à quatre pattes. Et puis ce travail avec les chiens qui était super intéressant, quoi. La relation entre le berger et son chien. Et puis finalement le chien qui est un peu plus le berger que l'homme au final. Parce que c'est lui qui gère le troupeau. En tout cas, ça m'a donné grandement envie de m'y mettre.
Alors nous, on est dans un fonctionnement vraiment pastoral. C'est-à-dire que nous, ce qui nous plaît, c'est de prendre le troupeau et descendre dans les forêts. Donc nous, on a aussi le troupeau qui fait pas... C'est une race vraiment très rustique, les chèvres du Rhum, qui ne mangent pas d'herbe, concrètement. Le fonctionnement des parcs, nous, ça ne nous convient pas, parce que du coup, il y a énormément de surpâture, il y a énormément de parasitisme, etc. Et que nous, clairement, on est des bergers avant d'être chevriers, enfin, avant d'être fromagers. Voilà. Nous, ce qui nous plaît, c'est de partir avec le troupeau, descendre dans les forêts, faire du nettoyage, voilà, tout ça avec le chien. Ça nous a permis dans tous les lieux de ne pas être forcément locataire ou propriétaire de terrain et de pouvoir à ce que les gens viennent nous demander. En Ardèche, c'est les chasseurs qui nous donnaient énormément de parcelles. Et pour eux, c'était génial parce qu'ils retrouvaient les paysages longtemps. Donc souvent, on leur disait « Mais attendez, si on continue à manger les ronciers, vous n'allez plus avoir de sangliers. » Et ils nous disaient clairement « Ouais, mais on retrouve vraiment les forêts comme elles étaient à l'époque. » Donc ça permet de pas... Nous, on est quasiment sur 200 hectares de pâture. Nous, en particulier, on a 6 hectares à nous, dont 2 juments, 2 ânes, etc., qui mangent bien leur quota d'herbe en nettoyage. Ça permet voilà, d'avoir une installation progressive et de ne pas être grand propriétaire ni grand locataire. Donc ça permet d'avoir peu d'investissement. Le fait de garder permet qu'on n'a quasiment aucun complément derrière alimentaire. Donc on ne donne pas de grains, on ne donne pas de compléments, on ne donne pas de granulés. En foin, le foin c'est minime parce qu'on les sort à l'année, donc c'est 8 heures par jour, tous les jours de l'année.
Et on est à 60 balles de foie à peu près à l'année. Et pour une journée de foie, on utilise une balle. Donc ça fait à peu près 60 jours dans l'année où les chèvres restent au foin. Donc vraiment en cas de grande pluie, de neige, etc. Donc ça, c'est vraiment une forêt. Typiquement, on est passé régulièrement avec les chèvres, de manière raisonnée. Et du coup, voilà, t'as vraiment une grande réouverture par le bas, là. Donc tout doucement, c'est de l'herbe qui repousse et une autre végétation derrière qui repousse, quoi. Donc, tu vois, par rapport au fonctionnement, les chèvres ne nous ont pas vu partir. Donc si tu les regardes là-haut dans la forêt, elles sont en train de revenir à notre point de départ. Alors dans les chiens, j'en ai deux. J'ai même un mille, là, qui est quand même... Et elle bosse totalement différemment. Chez, elle va être plus pointilleuse, plus avoir des rapports délicats, passer derrière et faire des déplacements de troupeau, tout doux. Donc ce qui est pas mal pour les mises bas, etc. Chiste avec moi! Donc là. Faire gaffe aux chèvres volantes ici. Du coup, on a les chèvres qui adorent monter dans les arbres. Ce qu'elles adorent, c'est le lierre. Donc souvent, quand il y a des arbres qui sont en semi-mort, et qui sont juste posés sur d'autres arbres, elles grimpouillent dessus, manger le lierre qui se balade. Il y a quelques chutes qui sont assez rigolotes des fois. Je suis née dans ces montagnes-là. Donc depuis petite, je suis une petite fille des montagnes. Une petite fille et une petite sauvageonne. Mais avec ce côté social qui a toujours été fort, j'aime beaucoup bosser avec les publics vraiment en difficulté. J'ai vraiment ressenti des choses fabuleuses comme je peux ressentir dans l'agriculture. Donc toute ma jeunesse, on va dire, j'ai pallié entre les deux. Entre souvent des boulots payés dans le social, où j'allais faire 6 mois de direction ou accumuler un peu des boulots en animation diverse. Et après, ben, les 6 mois de chômage qu'il y a, j'avais, j'allais dans les fermes, aider les copains à droite à gauche. Et après, le coup de foudre avec les chèvres, ça a été vraiment un copain qui m'a demandé si je pouvais aller aider une maman et son fils qui étaient installés en chèvre du Rhône. Donc je suis montée là-haut, à la base quelques jours, au final j'y suis restée vraiment longtemps. Et en fait, par le biais du woofing, où moi bah, derrière j'avais le chômage, et donc ça m'a permis d'apprendre sans avoir une formation. Rapidement, j'ai rencontré Jojo qui lui était charpentier. Et on s'est installé très rapidement au final. Et traite à la main pour l'instant, voilà. Je pense qu'on fait comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire qu'on commence à la main et jusqu'au jour où on a commencé à voir les canaux carpiens qui nous disent hop, stop, stop, stop. Et là, on réfléchira peut-être à passer à la machine. En tout cas, pour l'instant, l'idée n'est pas, c'est pas posé quoi. Nous, par rapport au troupeau, on a vu plusieurs élevages de chèvres. On a vu des élevages de chèvres où le contact avec les chèvres était assez distant. Et on a vu d'autres élevages où justement la distance était à l'inverse très très proche. Donc nous, on a essayé de trouver un juste milieu, de manière à ce que si on a un soin à faire sur une chèvre, on n'ait pas 10 minutes à réussir à l'attraper. Mais en même temps, on essaie de tenir quand même une distance voilà, pour garder aussi leur instinct au maximum naturel, quoi. Sachant que c'est des chèvres qui sont gardées tous les jours, donc on a l'autonomie avec elles, c'est pas possible. Le moment où tu vas te lever pour aller faire pipi dans un bosquet, ben, y a tout le troupeau qui va arriver. Le téléphone sonne, c'est le moment où elles vont se dire « Oh, le berger elle est occupé !» et elles vont tracer un peu plus bas. Elles sont quand même enrichies en conneries, hein. Elles ont une mémoire sélective de toutes les conneries qu'elles veulent faire. Donc des fois ça te fait marrer, des fois ça te fait un peu moins marrer, ça dépend des conneries qu'elles font. Mais dans l'ensemble, c'est quand même toujours des bons moments qu'on passe avec elle. La base du berger. Une pomme, de la fraîcheur. Un bon bouquin, léger, parce qu'il ne faut pas quelque chose de très compliqué, parce qu'on peut à tout moment courir après les chèvres. Et un bon hamac. À partir du moment où tu es installé, c'est le moment où les chèvres adorent venir s'allonger sous le hamac. C'est ma pomme. Non, 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 tu rêves. Non. Du coup, dans le troupeau, elles ont aussi toute une place. Il y a les dominantes, les dominées, et il y a les meneuses. Du coup, les meneuses, c'est tout simplement les chèvres qui ont des cloches. Et donc, les cloches, ça a une réelle utilité. C'est que tu regardes, les chèvres, elles continuent à manger. Et quand moi, je vais me déplacer, par exemple, les cloches vont me suivre parce qu'elles ont toujours un petit œil sur moi. Et les chèvres, du coup, d'instinct, hop, elles vont continuer à suivre la cloche et du coup, elles vont rejoindre tout le temps le troupeau. Le troupeau de chèvres ne se sépare jamais. Il est vraiment soudé entre lui-même. Quoi. Du coup, les cloches, contrairement... Au début, quand j'étais petite, je me disais que les cloches, ça devait être quand même dur pour une chèvre d'avoir ça autour du cou. Et en fait, c'est une grande fierté pour elle. Ça nous arrivait d'enlever des cloches pour les réparer ou pour faire autre chose. Ou alors de trouver une chèvre qu'elle le mérite, donc on lui met certaines de ses cloches. Et en fait, elle passe au milieu du troupeau avec grande fierté et elle tape sur toutes les chèvres vraiment pour lui montrer qu'elle a sa cloche. Quoi. On a aussi une autre cloche. Donc du coup, là, à l'infirmerie, Galinette, c'est la cloche de la honte. Donc c'est une toute petite cloche qui fait un son très aigu. Et ça, on le met beaucoup sur... Il y a des chefs qui adorent leur spécialité, c'est de taper les autres chefs par derrière quand ils sont en train de manger. Et en fait, le fait d'avoir mis cette petite cloche, quand elle passe derrière, ben, les chefs se retournent d'office parce qu'elle sait que c'est la chèvre, la vilaine qui passe. Et donc, on arrive à réduire énormément le coup par derrière, par un sommeil de la honte. Super important. On va déplacer les troupeaux. Donc on va passer par exemple un mois sur une forêt, ensuite on va déplacer, etc. Ça nous permet de lutter contre le parasitisme. Ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas déparasité le troupeau. On fait des coprologies, donc des analyses de sel qui nous permettent de voir quels sont les parasites qu'on a au sein du troupeau. Ça se trouve que ça fait 2 ans et demi qu'on a 0 parasitisme. Donc notre fonctionnement est vachement intéressant aussi. Donc on n'utilise pas de vermifuges industriels, etc. Donc ça c'est quand même un très bon avantage. On a des bêtes qui sont vraiment saines. Et le système de quartier permet d'une part de faire qu'on n'a pas de surparasitage, donc c'est-à-dire que de surpâturage, qui permet que ça va parasiter les sols. Et le changement de terre fait aussi ça nous permet vraiment de gérer les forêts. C'est-à-dire que si à un endroit il y a une jeune repousse de frêne, on va changer de quartier pour que cette jeune repousse de frêne se fait. Si on a un propriétaire qui va nous demander en nous disant les frênes c'est la cata, c'est envahissant, et bien on sait qu'on va passer les chèvres à ce moment-là pour justement que la forêt se réouvre et ne s'agrandisse pas sur du frêne, du noisetier et tous ces arbres-là. C'est le point financier hein, qui est quand même pas des moindres non plus. Nous, par le fait qu'on a fait le choix de garder les chevreux élevés sous la mer, fait que clairement on a moins de lait. On est sur des productions minimes en lait. L'avantage qu'on a, c'est étant donné qu'on les sort, on a au niveau du financier derrière, pas d'achat de granulés, pas d'achat de fourrage, etc. ou très peu, ce qui nous permet d'avoir peu de sorties d'argent pour s'occuper des chèvres. Il est clair qu'un jour, on va aller travailler à côté pour garder ce côté-là. On a un mot fléché, parce que sa mère, elle s'appelait Hachette. Méditation, fille à Shiva. Derrière, on a moustache, fille à barbiche. Morue, fille à jupette. Là-bas, on a Maretsu, grande lignée de bière de connaissance. Là-bas, on a moule frite. Mercedes, lignée. Sa mère, c'est 4-4. Mon fléché, sa mère, ouais, c'était Hachette. Qu'est-ce qu'on a ? Là-bas, on a Lassion, parce que sa mère s'appelait Hippie. Hippie Lassion !
Donc, Lia et Elsa sont aujourd'hui ici pour accompagner le film. Lia, ça fait combien de temps du coup que tu pratiques
Alors, ça fait quasiment 10 ans à peu près. Jusqu'à maintenant, les 4 premières années, je les ai consacrées. Donc, moi, je travaillais à côté. J'ai un diplôme en animation. Et dès que j'avais un petit peu de temps ou que je finissais mon contrat, j'allais aider des amis sur plusieurs fermes différentes, leur filer un coup de main pour s'installer, d'autres à continuer, etc. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment mis les pieds dans le milieu et que je me suis rendu compte que bon, c'était parti pour nous.
Donc tu as commencé à avoir un troupeau petit, j'imagine, à la base.
Voilà, on a démarré, donc ça fait 6 ans de ça. On a acheté un petit lot de chevrettes qu'on a élevé au biberon. Ces chevrettes, maintenant, elles ont 6 ans, donc c'est des chèvres qui nous ont donné et qui nous ont permis de monter notre troupeau. Donc l'idée, c'est pendant plusieurs années, donc pendant quasiment 4 ans, on a monté notre troupeau. On travaillait à côté. On a commencé à augmenter notre troupeau petit à petit, à s'en occuper. Et donc, ça fait 2 ans qu'on est revenu en Ariège. Et là, vraiment, on a lancé l'activité lait, etc. Parce qu'on avait un troupeau conséquent, on avait les connaissances, on avait l'expérience pour se lancer dans l'aventure.
Et donc, pour déplacer ce troupeau de là où tu étais installé jusqu'à ta ferme à Alzin.
Alors, ça a été par un transporteur, donc ça a été un camion 2 étages, parce qu'il y avait quasiment 70 chèvres, donc c'était assez folklorique, et une dizaine de brebis, plus nous, à côté, dans les véhicules, les poules, les lapins, les chiens, les agneaux, les chevrettes. C'était un beau déménagement.
Avec un troupeau comme ça, on peut produire du fromage toute l'année, puisque comme tu le dis dans le film, vous vous lancez dans le fromage et c'est toute une autre affaire.
Alors non, on ne produit pas l'année et bien loin de beaucoup de laitiers, c'est-à-dire que nous on laisse les petits sous la mer et on arrête la lactation à partir du moment où on passe les boucs. Donc on leur laisse leurs 5 mois de gestation, on laisse les petits sous la mer jusqu'au sevrage et à ce moment-là, on démarre l'activité lait. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un troupeau assez conséquent. C'est par ce biais-là qui fait que financièrement, c'est pas rentable. Mais nous, voilà, c'est le fonctionnement qui nous plaît, de laisser les petits sous la mer, de produire moins de lait, donc ça veut dire moins de marché, etc. Et de fonctionner de manière plus tranquille avec l'élevage en soi.
Donc chaque année, le troupeau, il grossit, en fait.
Voilà. Surtout là, depuis qu'on a lancé l'activité lait, il faut qu'on augmente le troupeau. Parce que c'est, étant donné qu'on laisse les petits sous la mer et que c'est des chèvres qui donnent peu de lait, il faut qu'on monte à un certain nombre de mères. Donc là, on garde 20 chevrettes de renouvellement chaque année.
D'accord. Et du coup, vous êtes toujours dans la production de viande en parallèle
Voilà, où on essaie de le développer au maximum. Jusqu'à maintenant, c'est du découpé sous vide en sortie d'abattoir. On aimerait bien réussir un jour à être autonome. Sur l'abattage, c'est encore une autre partie jusqu'à on arrive à l'abattage à la ferme. Hein, c'est un autre débat. Mais en tout cas, réussir à nous transformer au maximum. Donc revaloriser par des rillettes, etc., par des labos transfo. Pouvoir vraiment revaloriser la viande de chevreau, qui est une viande qui se connaît très très peu. Voilà, qui a plein d'atouts.
Donc il y a déjà une petite économie locale autour d'Alzin et de la ferme de...
Ravenrol ?
Oui.
Par rapport à la viande ?
Oui, ou au fromage aussi.
Par rapport au fromage, vu qu'on a une petite production, l'avantage de ces chèvres, c'est qu'elles donnent peu de lait, mais qui est quand même goûtu. Donc on fait nos 3 marchés et on n'a jamais assez de fromage. Donc on est quand même assez content sur le fonctionnement. Ça nous fait plaisir aussi de... Voilà, on produit peu, mais par contre, on vend notre peu de production facilement.
D'accord. Donc, être chevrier, comme tu le dis dans le film, c'est un choix de vie. Est-ce que c'est par rapport au nombre d'heures de travail que c'est un choix de vie
Alors, les heures de travail, on ne les compte pas. On n'a pas de week-end, on ne peut pas partir en vacances. Voilà, ça, c'est comme tout agriculteur. Hein, à partir du moment où on prend des bêtes, c'est un engagement au quotidien. Tous les jours, le week-end. Les jours fériés, pour nous, on ne connaît pas. On a une petite fille de 4 ans aussi. Donc, derrière, on essaye au maximum de se relayer pour passer du temps avec elle et faire des choses à côté. Après, ouais, c'est une passion. On peut pas être agriculteur ou chevrier ou qu'importe si on n'est pas passionné et qu'on n'aime pas notre métier, quoi.
Donc, est-ce qu'il y a un gros désavantage à être chevrier à part l'aspect financier, par exemple sur la production de fromage? Est-ce qu'il y a autre chose qui est contraignant? Et en parallèle aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment avantageux?
Alors l'avantage, c'est qu'on se lève le matin et on s'habille pour aller se balader avec notre troupeau. Donc on passe notre journée à les regarder, à les voir évoluer, on voit les chevreaux, chevrettes grandir, etc. Donc c'est quand même, on travaille pour nous, donc ça c'est quand même le plus gros point positif quand même, qui est quand même plus agréable. Les points négatifs, oui, c'est que c'est au quotidien. Donc c'est au quotidien, c'est pas de week-end, c'est pas de jour férié, c'est pas de vacances, c'est pas de voyage, c'est tout ce que ça met à côté. Après, une des choses que nous, on aime beaucoup aussi, c'est pouvoir recevoir des personnes comme des bergers, par exemple, en transition, quand ils ont fini leur estive d'été, ils viennent à l'automne, ils viennent passer 15 jours à la maison. En échange, ils voient le fonctionnement des chèvres, donc, qui est un autre système de garde. Et nous, pendant ces 15 jours, on va réussir à prendre 3 jours ou un week-end pour aller voir de la famille ou souffler un petit peu.
D'accord. Et toi, Elsa, du coup, sur le tournage, ça s'est déroulé en combien de jours de tournage Rock'n'Roll ?
Avec les courts-métrages de la télé buissonnière, en général, c'est une journée de tournage. Et il y a une journée de repérage aussi, où on va rencontrer Lia et Jojo, discuter, pour choisir vraiment ce qu'on veut dire. Et en fait, on y est retourné une deuxième fois pour compléter.
Donc, est-ce que tu témoignes que c'est un boulot sans relâche de suivre les chefs, de se promener?
Surtout que dans le film, il y a toute une partie qu'on ne voit pas. On ne voit pas beaucoup la ferme, on est beaucoup en forêt, mais il y a tout le travail à la ferme que moi, j'ai moins filmé, mais qui est très lourd aussi.
Elle n'a pas mis ma course-poursuite après les deux juments et les deux ânes qui s'étaient échappés. Il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas pu être mises parce que c'est quand même long.
D'accord.
Tu avais une chouette question sur les vétérinaires.
Oui, du coup, Jojo explique que dans le métier, on est aussi un peu vétérinaire. Ça s'est fait au fil de l'expérience, ou alors il y a eu vraiment une formation concrète pour s'occuper des animaux en cas de maladie?
Alors ça s'est fait par l'expérience, beaucoup. Et l'avantage qu'on avait, c'était, étant donné qu'on avait beaucoup filé de coups de main à droite, à gauche, dont beaucoup d'éleveurs qui étaient depuis très longtemps. Et on a eu énormément de fois où on a passé des coups de téléphone, des appels au secours à des anciens chevriers en disant « bon ben là j'ai une mise bas qui se passe comme ça, qu'est-ce que je fais ?» Et donc voilà, on a été beaucoup conseillés, on a des amis qui se sont déplacés pour venir nous faire les premiers plâtres, etc. Donc ça a été plus dans l'échange. Donc nous on venait filer un coup de main, on allait garder, etc. Et quand on avait besoin, ben, les personnes venaient se déplacer, les amis venaient nous soutenir pour notre installation.
D'accord, pour ces belles chèvres du Rove.
C'est ça.
Est-ce que tu connais l'histoire de ces chèvres du Rove, si elles viennent d'Ariège ou si elles viennent de là où tu as formé le troupeau ou d'ailleurs?
Alors, pas du tout. Les chèvres du Rove, elles sont originaires du Rove, qui est un petit village au-dessus de Marseille. On dit que elles viendraient de Mésopotamie. Donc, les chèvres ont dû être importées à l'époque de Grèce. Le beau mythe est que un navire grec a coulé sur les abords de Marseille et que les chèvres sont venues à la neige à Marseille. Qu'à Marseille, elles se sont rendues compte que ce n'était pas forcément adéquat pour elles. Donc elles sont montées un petit peu plus haut sur les collines et elles sont atterries sur ce petit village qui s'appelle Le Rove. Nous, on se fait un challenge parce que c'est des chèvres. Elles ont été préservées énormément par les bergers qui les montent à la montagne, parce qu'on s'est rendu compte que c'est des chèvres qui s'adaptaient à tous les climats, qui s'adaptaient énormément.
Et du coup, leur spécificité aussi, c'était qu'elles ne mangent pas d'herbe, du coup, et qu'elles
nettoient
la forêt.
Alors, elles mangent peu d'herbe. En tout cas, nous, en Ariège, c'est assez fabuleux. C'est des chèvres des garrigues. Donc, c'est des chèvres qui vont manger vraiment dans les garrigues, là où c'est sec, là où il n'y a rien à manger. Elles sont beaucoup, beaucoup utilisées contre les luttes contre l'incendie. On l'a vu cette année, il y a eu énormément de cas d'incendie. Tous les endroits où il y a des éleveurs de chèvres du Rove ont été épargnés. Elles font énormément de nettoyage. On est peu de troupeaux en Ariège ou dans les départements un peu plus humides. Ça a été le challenge de voir si elles allaient s'adapter, etc., sur des terrains humides. Et on est ravis. On a entendu beaucoup de vieux éleveurs qui disaient « Ouh, le chèvre du Rove, dans un an, elles sont toutes mortes. » Voilà, ça fait bientôt 3 ans qu'on y est, elles sont en pleine forme. Donc le challenge est réussi, elles s'adaptent vraiment bien.
Super. Eh bien, merci d'être venu pour l'émission de la télé buissonnière.
Merci à vous. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les marchés d'Alzin tous les vendredis soirs à 17h. Et tous les premiers vendredis du mois, il y a un marché élargi avec plein d'autres stands qui se rajoutent.
Et merci Elsa aussi.
À bientôt.
Merci à tous les auditeurs de Radio Transparence et à la prochaine émission dans 2 semaines.
La télé buissonnière, un média documentaire et participatif en Ariège.